Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La conversation, pivot et reflet. Au programme, l'astrosurfing, ou l'art de créer des faux mouvements populaires. Le bois, hors brun des populations réfugiées d'Ouganda. Et l'anxiété sociale. Bonne écoute.
L'astrosurfing, ou l'art de créer de faux mouvements populaires, par Justine Lalande, doctorante au département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal, a été publié dans le magazine La Conversation le 3 janvier 2023. Vous êtes-vous déjà demandé si les mobilisations citoyennes que vous apercevez dans la rue, sur vos réseaux sociaux ou dans les journaux, sont réellement le fruit du travail de personnes ordinaires? Ce n'est pas toujours le cas. En matière d'acceptabilité sociale, la mobilisation citoyenne est un facteur tellement important que certains sont tentés de fabriquer de toutes pièces de faux mouvements citoyens pour donner l'illusion qu'une majorité appuie leur point de vue. On appelle ce phénomène l'astroturfing. Il s'agit d'une tactique qui consiste à usurper et instrumentaliser des mouvements citoyens afin de soutenir des intérêts particuliers. Outils de désinformation, de lobbying, de militantisme, mais aussi de relations publiques, l'astroturfing englobe un ensemble de stratégies de communication. On viendra ainsi masquer les commanditaires d'un message ou d'une organisation pour faire croire qu'il provient et qu'il est soutenu par des citoyens ordinaires, alors que c'est faux. C'est une pratique visant à donner de la crédibilité aux déclarations ou aux organisations, mais en dissimulant des informations sur les liens qu'ils entretiennent entre eux, qu'ils soient financiers ou autre. Cette pratique est malheureusement de plus en plus courante, l'avènement du numérique offrant un éventail de nouvelles possibilités. Mais elle est aussi de plus en plus démasquée, comme le révèle la chercheure en communication Sophie Boulet de l'UQAM, qui a consacré sa thèse à ce phénomène dans un ouvrage qui recense 99 cas d'astroturfing dénoncés au cours des 25 dernières années. Les techniques de l'astroturfing sont multiples. Construction de faux profils en ligne, achat de faux followers sur Twitter ou de faux avis positifs, embauche de personnes pour manifester dans la rue, création de groupes citoyens de façade, la liste est longue. Le terme « astroturfing » est dérivé d'AstroTurf, une marque de gazon synthétique conçue pour ressembler à de l'herbe naturelle souvent utilisée sur des terrains sportifs. C'est un jeu de mots avec la dénomination anglophone des mouvements citoyens qui émanent de la base, qu'on appelle « grassroots ». L'astroturf désigne donc ces faux mouvements citoyens, mais qui font tout pour avoir l'air vrai, à l'image de ce gazon synthétique. Le terme est apparu aux États-Unis en 1986. C'est Lloyd Bentsen, un sénateur démocrate, qui a donné un nom à cette pratique après avoir reçu de nombreuses lettres de la part de citoyens qui s'inquiétait vis-à-vis une nouvelle proposition politique visant à réglementer l'alcool. Il s'est avéré que ces lettres avaient été envoyées non pas par des citoyens inquiets, mais bien par l'industrie de l'alcool elle-même. C'est à ce moment qu'il a déclaré qu'il était capable de faire la différence entre du « grassroots » et de l'astroturf. Un des cas d'astroturfing les plus connus demeure la création par l'industrie du tabac de la National Smokers Alliance, NSA, en réponse à la législation anti-tabac aux États-Unis en 1993. De 1994 à 1999, la NSA, qui se présentait comme un regroupement de personnes fumeuses, mais pourtant secrètement financées par l'industrie du tabac, a effectué plusieurs campagnes de relations publiques visant à amoindrir les dangers liés à la cigarette. Autre cas connu, Purdue Pharma est une compagnie pharmaceutique tristement célèbre pour avoir mis sur le marché l'oxycontin à l'origine de la crise des opioïdes. Parmi les nombreuses tactiques utilisées pour faire mousser les ventes de ce médicament, Purdue Pharma a créé de toutes pièces une coalition de médecins, patients et travailleurs de la santé appelée Partners Against Pain, PAP, en 1997. Malgré ses allures indépendantes, PAP était entièrement financé par Purdue Pharma. Le site web, les brochures et les vidéos de Partners Against Pain n'étaient rien d'autre que des outils promotionnels destinés à convaincre le public et les médecins que la consommation d'opioïdes était sécuritaire et ne créait pas de dépendance, et non des témoignages comme ils ont tenté de le faire croire. Au Canada, le géant des télécommunications Bell a été reconnu coupable en 2015 par le Bureau de la concurrence d'avoir encouragé ses employés à rédiger des évaluations et des commentaires positifs au sujet des applications gratuites de la compagnie sans préciser qu'ils étaient employés. Ils ont dû verser 1,25 million de dollars en dommages. La loi canadienne sur la concurrence interdit les représentations fausses ou trompeuses. Au Québec, des dispositions semblables existent dans la loi sur la protection du consommateur. L'article 242 interdit effectivement aux commerçants de faire de la publicité en passant sous silence leur identité ou leur qualité de commerçant. Les lois qui encadrent actuellement l'astroturfing n'ont pas été pensées spécifiquement pour réglementer cette pratique. Elles ne sont pas toutes bien adaptées aux particularités contemporaines de l'astroturfing, ce qui explique le faible nombre de compagnies ou d'individus qui ont été mis en faute. C'est particulièrement vrai lorsque l'astroturf est utilisé à des fins politiques, mettre de la pression sur un politicien pour faire modifier une loi, par exemple, en fabriquant un faux mouvement citoyen. Comment repérer l'astroturfing? Par leur nature cachée, trompeuse et manipulatrice, il est difficile de reconnaître ces faux mouvements citoyens. L'astroturfing, bien que de plus en plus connu, fait l'objet d'un paradoxe. Une fois détecté, il cesse d'exister. Les techniques sont effectivement de plus en plus raffinées et difficiles à repérer. Il n'existe donc pas de truc ou astuce qui fonctionne à tout coup pour repérer l'astroturfing. Deux conseils? Se fier à son instinct et faire preuve de curiosité. Un groupe de patients d'une maladie rare qui a soudainement énormément de moyens? Un nouveau regroupement en faveur d'un projet énergétique qui fait une entrée fracassante dans la sphère publique? Un politicien qui a très soudainement beaucoup d'interactions sur ses réseaux sociaux? Si quelque chose semble clocher, c'est peut-être le cas. Utilisez votre esprit critique. Les messages d'AstroTurf peuvent effectivement sonner faux. En bref, faites le clic de plus en plus pour vérifier la provenance réelle d'un message et les intérêts qui pourraient s'y cacher. Vous venez d'entendre la lecture de « L'astroturfing » ou « L'art de créer de faux mouvements populaires » écrit par Justine Lalande, doctorante au département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal et publiée dans le magazine « La Conversation » le 3 janvier 2023.
Le bois, or brun des populations réfugiées d'Ouganda. Un texte de Roméo Mocafico, paru le 18 avril 2022 dans le magazine Pivot. Dans les camps, le bois est une ressource vitale pour les centaines de milliers de réfugiés installés dans la région. Sa récolte est aussi la principale cause de déforestation du pays. L'arrivée massive de réfugiés en Ouganda exerce depuis quelques années une forte pression sur les forêts du pays. Les centaines de milliers de personnes installées dans la région du Nil occidental depuis le début de la crise du Sud-Soudan voisin peinent à trouver du bois et les trafics et rivalités communautaires s'y sont multipliés. Pour contrer cette crise du bois, les opérations de reforestation s'intensifient. Il fait 30 degrés Celsius ce matin dans le camp de réfugiés de Rhino, dans le nord-ouest de l'Ouganda, petit pays enclavé d'Afrique de l'Est. Monica Sadia enfile ses sandales pour se rendre à son lieu de travail du jour. Cette réfugiée sud-soudanaise a fui en 2017 la crise civile et alimentaire qui sévit dans son pays d'origine et demeure désormais dans l'un des nombreux camps ougandais qui rassemble plus d'un million de personnes. Elle vit grâce à la revente de bois qu'elle récupère sur les terrains les plus proches de la parcelle qu'on lui a attribuée à son arrivée. Comme de nombreuses autres femmes, Monica fera ce trajet une dizaine de fois cette semaine. Ressources vitales. Dans les camps, le bois est une ressource vitale pour les centaines de milliers de réfugiés installés dans la région. La population, en très grande majorité sud-soudanaise, l'emploie quotidiennement pour effectuer des travaux de construction, cuire la nourriture et se réchauffer. Sa récolte est la principale cause de déforestation du pays, d'après l'Autorité forestière nationale de l'Ouganda, NFA, qui estime que la couverture arborée a diminué de 60 % au cours des 5 dernières années. Grace Tomalo ramasse également du bois depuis son arrivée il y a 5 ans. « Il faut aller de plus en plus loin pour en trouver », explique-t-elle. Cela devient si compliqué que l'on doit parfois offrir aux propriétaires des terrains de récolte une partie de la nourriture que l'on reçoit pour obtenir le droit de ramasser. Pourtant, d'après Innocent Amadil, le chef des lotissements Ariwa du camp de Rhino, la récolte de bois dans la région est gratuite et les populations réfugiées obtiennent quasi automatiquement le droit de ramassage nécessaire à la pratique. On offre une parcelle de terre à tous les ménages à leur arrivée où ils peuvent ramasser et planter autant qu'ils le souhaitent. Pour ce référent officiel, la situation est aujourd'hui devenue critique, et ce, malgré les recommandations des autorités. En effet, une réfugié consomme en moyenne 20 arbres par an en Ouganda, selon une estimation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le gouvernement local recommande que l'on plante 5 nouveaux arbres pour chaque coupe. Nous avons une pénurie de bois, et ce même si la police vérifie que seules les personnes autorisées travaillent dans le secteur, explique M. Amadil. Quand on considère le climat de la région, notre environnement, on ne peut pas juste couper un arbre comme ça. En 1990, la couverture forestière était estimée à 24 % de la superficie totale des terres. Ce pourcentage a chuté à 12,4 % en 2015 et se situe autour des 9 % ces dernières années. En conséquence, plus de 8 personnes sur 10 interrogées en 2019 par une équipe de chercheurs mandatée par l'organisme World Agroforestry ont dit percevoir une dégradation de leur environnement. Tensions entre réfugiés et communautés d'accueil. Pour Patrick, qui reconnaît à demi-mot ne pas avoir obtenu l'autorisation pour récolter autour des camps, la situation crée des rivalités entre les réfugiés et les populations d'accueil. Il y a des tensions pour le ramassage de bois, confie cet Ougandais venu de la ville d'Arua, située à 2 heures de route. Parfois, les réfugiés viennent aussi sur nos terres et volent notre bois. Une situation qui fait écho à un rapport émis en juin 2019 dans lequel la Banque mondiale et les Nations unies alertaient déjà sur ce risque dans la région. Citation : La concurrence pour les ressources disponibles pourrait devenir une source de conflit entre les réfugiés et les communautés d'accueil. Fin de citation. Contrairement aux réfugiés voisins, qui rapportent le bois à bout de bras dans leur lotissement pour le revendre entre 200 et 500 shillings, 7 et 20 cents, Patrick récolte une fois par semaine à l'aide d'un camion. Tu ne peux pas prendre du bois n'importe où, mais tu peux toujours trouver un moyen de payer l'accès à un terrain si tu le veux, confie-t-il. Il se rend ensuite en ville, où il passe la cargaison à des grossistes qui se chargent de la revente au détail. Je rappelle que nous lisons « Le bois, or brun des populations réfugiées d'Ouganda », un texte de Roméo Mocafico paru le 18 avril 2022 dans le magazine Pivot. Pour lutter contre la déforestation qui sévit dans la région, les autorités ont mis en place un programme de reboisement en collaboration avec des ONG et des producteurs locaux. Le directeur du développement des plantations de la NFA, Stuart Maniragua, a notamment fait la promotion de l'agroforesterie, la culture d'arbres et de cultures ensemble sur la même terre, et annoncé l'objectif d'une dizaine de millions d'arbres plantés dans les années à venir. C'est grâce à ces nouvelles mesures, décidées par différents décrets à partir de 2013, que Alisaba Onis, fondatrice de la pépinière Ewadri Agroforestry Farm, située en bordure des camps, a pu reboiser une partie des terres du camp de Rino. Lorsque je me suis lancée dans l'agroforesterie, j'ai dû passer 150 entretiens avant de décrocher un contrat, se remémore-t-elle. C'était en 2017. Les premiers réfugiés qui sont arrivés ont tout récolté, explique-t-elle, en faisant référence à la première vague migratoire venue du Sud-Soudan en 2014. Les seconds étaient fauchés, car il n'y avait plus rien. C'est à ce moment que les associations ont intensifié leurs opérations. On a planté des acacias, des gmelinas, qui sont des arbres à croissance rapide, pour avoir du bois en 2 ou 3 mois. La solution est ensuite de ne récolter que les branches, car elles peuvent repousser en quelques jours. Pour les fruits, on fait pousser des mangues et des avocats. Les communautés locales, tout comme les réfugiés, ne savaient pas que leurs activités posaient problème. Quand j'ai démarré, j'ai demandé au chef des camps de m'y rendre pour faire de la prévention. Les gens ont ensuite compris les gestes, c'était juste un manque d'information. C'est à nous, professionnels, de transmettre le savoir. Depuis son arrivée au camp d'Impévi, Lily Leyoba plante des arbres grâce aux moyens fournis par le Centre international pour la recherche en agroforesterie, ICRAF, un organisme qui collabore depuis 2018 avec les populations réfugiées. À mon sens, les propriétaires terriens avaient bien trop coupé leur terrain, estime Lily. D'une part, pour permettre l'établissement des parcelles d'accueil, mais aussi car ils avaient besoin d'argent, explique la Sud-Soudanaise. La situation tend à changer depuis peu, car les populations ont compris l'importance de planter pour remplacer. Un point de vue que partage John Ossidi, le directeur de terrain d'un centre agroforestier d'ICRAF au camp de Rino. Les habitants des camps sont très intéressés par les plantations, car on les forme puis on leur fournit les semis, dit-il. Ça leur permet de gérer leur terrain et de gagner de l'argent. La reforestation a un fort impact économique dans ces communautés. Financés par des fonds privés et des fondations, comme la Banque africaine de développement, l'ICRAF réalise régulièrement des enquêtes parmi les communautés pour identifier les lieux à reboiser. On se concentre sur les zones très dégradées ou sur celles sans arbres, ajoute M. Ossidi. Chaque bouture coûte en moyenne 75 cents américains à produire. Il faut ensuite ajouter les salaires et les charges. On plante chaque année lors de la saison humide, qui s'étale de fin mars à mai, mais avec les aléas des changements climatiques, on s'adapte comme on peut. Parfois, ça a aussi des conséquences sur la survie des arbres. À l'instar d'autres entreprises présentes dans la région, l'ICRAF augmente chaque année son rendement. Avec 118 000 arbres plantés en 2020 et 127 000 en 2021, l'objectif est d'atteindre 200 000 plantations cette année. La NFA, quant à elle, a pour objectif que 24 % du territoire ougandais soit recouvert d'arbres d'ici 2040. L'organisme a bon espoir que ces futures parcelles boisées rendent la vie meilleure aux populations réfugiées. Ce reportage a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international. C'était « Le bois, or brun des populations réfugiées d'Ouganda », un texte de Roméo Mocafico, paru le 18 avril 2022 dans le magazine Pivot.
L'anxiété sociale, un texte de Daniel Richard, paru en décembre 2022 dans Reflet, volume 39, numéro 2. L'auteur est directeur général de Phobie Zéro. L'anxiété a la réputation d'être un des grands maux du 21e siècle. Anxiété généralisée, anxiété de performance, agoraphobie. Saviez-vous que la forme d'anxiété la plus fréquente est l'anxiété sociale? De 3 % à 13 % des gens souffriraient d'anxiété sociale à un moment de leur vie. Ça va au-delà de la timidité. Cette anxiété se manifeste par une peur démesurée et intense concernant une ou plusieurs situations d'interaction sociale durant lesquelles le sujet est exposé à l'observation d'autrui. Quelques exemples. Parler en public, s'adresser à une personne en autorité, manger devant autrui ou simplement participer à une réunion. La personne craint d'agir ou de montrer des symptômes d'anxiété qui l'amèneraient à être embarrassée devant les autres, comme rougir, bafouiller ou faire une bêtise. Les personnes souffrant de ce type d'anxiété ont tendance à éviter les situations sociales, ce qui contribue au maintien et à l'aggravation de leur anxiété. Lorsqu'elles ne peuvent éviter certaines situations, elles se mettent à y penser plusieurs jours à l'avance et les vivent avec une grande détresse. Les mesures sanitaires imposées par la pandémie, notamment la distanciation sociale et le confinement, ont probablement alimenté cette forme d'anxiété. Pour un individu souffrant d'anxiété sociale, la perspective de devoir rester confiné à la maison a pu être attrayante. Qui ne serait pas soulagé à l'idée de ne plus avoir à affronter ses peurs? L'évitement est toutefois un couteau à double tranchant. Il soulage temporairement, mais amplifie le trouble anxieux. D'autres vivent aujourd'hui la crainte d'avoir perdu l'habitude des contacts sociaux au point de ne plus savoir comment se comporter correctement devant autrui, de ne plus savoir aborder leurs collègues, d'être anxieux à l'idée d'aller à une fête. En présence d'autres facteurs de risque, cela peut être suffisant pour voir naître un trouble de l'anxiété sociale. Le traitement et la prévention de l'anxiété sociale reposent sur les approches de la thérapie cognitivo-comportementale ainsi que sur des thérapies de groupe visant à développer des compétences sociales. L'exposition graduelle aux situations causant de l'anxiété est primordiale. Par exemple, sortir quotidiennement de la maison pour faire une promenade ou des courses. On peut aussi échanger par courriel ou par téléphone avec une personne avec qui on se sent à l'aise pour discuter. Et plus on devient à l'aise, plus on peut augmenter le niveau de difficulté. Plusieurs techniques de méditation et de respiration peuvent aussi aider grandement à réduire l'anxiété. Dans ce processus, la constance, l'engagement et surtout la bienveillance envers soi restent les clés de la réussite. Phobie Zéro est un organisme communautaire à but non lucratif reconnu comme un organisme national par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il permet aux personnes, jeunes et adultes, qui souffrent de troubles anxieux, y compris le trouble obsessionnel compulsif, de bénéficier du soutien auquel elles ont droit et par lequel elles pourront, peu à peu, vivre une vie libre de peurs irraisonnées. C'était « L'anxiété sociale », un texte de Daniel Richard, paru en décembre 2022 dans « Reflet », volume 39, numéro 2.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Jocelyne Langevin et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau et Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.